Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Info.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Les Informés sur France Info, à la radio et à la télé, canal 27 de la TNT. À la une ce soir, la campagne des élections européennes, des candidats ou leurs représentants en Outre-mer avant l'entrée dans la bataille d'Emmanuel Macron, ce sera jeudi. Le président pourra-t-il faire décoller le score de la candidate Renaissance Valérie Ayer ? Le déblocage hier aux États-Unis en attendant le vote du Sénat, des aides pour l'Ukraine et Israël, quelles conséquences concrètes sur le terrain ? Nous verrons cela. Et puis les 80 ans du droit de vote des femmes en France, loi qui permettait aussi aux femmes de se présenter à des élections. Quel combat aujourd'hui d'ailleurs pour les femmes en politique. Nous en débattrons avec nos informés. Ils sont quatre ce soir. Émilie Zapalski, bonsoir.
Bonsoir.
Fondatrice de l'agence de communication Émilie Conseil. Valérie Lecable est là aussi. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Victor.
Éditorialiste politique au site lejournal.info. Séverin Husson à vos côtés, bonsoir.
Bonsoir Victor.
Directeur adjoint de la rédaction de La Croix et Serge Simino. Bonsoir Serge.
Bonsoir Victor.
Journaliste au service politique de France Télévisions. C'est parti pour une heure de débat. À quelques semaines maintenant des élections européennes, le dimanche 9 juin, les candidats ou leurs représentants donc poursuivent leur campagne. Raphaël Glucksmann à La Réunion, Marine Le Pen à Mayotte, en attendant l'entrée dans la bataille d'Emmanuel Macron. Ce sera jeudi pour un discours à la Sorbonne, le chef de l'État qui doit s'exprimer sur les questions européennes. Un discours et une vision plus qu'un programme, à en croire le porte-parole Renaissance, Loïc Signor, invité ce matin de France Info.
C'est un discours de vision, c'est un discours où le président de la République va venir compléter celui qu'il avait déjà effectué en 2017 à la Sorbonne et qui, à l'aune de certaines crises, et il faut le reconnaître, s'est matérialisé sur l'Europe de la défense, sur le budget européen. C'est une vision, encore une fois, que le président de la République avait développée. Et quand vous allez dans les travées du Parlement européen, à Strasbourg ou à Bruxelles, les socialistes, la droite européenne vous disent « quand est-ce que le président de la République va parler ?» Ce sont des opposants politiques avec lesquels on peut avoir des désaccords, des sensibilités, mais ils reconnaissent une chose. Il y a deux leaders aujourd'hui en Europe. Emmanuel Macron, d'un côté, pour la vision qu'il porte pour la construction européenne, et Viktor Orban, de l'autre, contre la construction européenne telle qu'on la connaît. Donc ce ne sera pas un discours programmatique en lien directement avec ce que nous allons proposer avec la liste Besoin d'Europe, mais c'est une vision à l'échelle européenne telle qu'il l'avait développée en 2017.
Le porte-parole Renaissance, Loïc Signor, plusieurs choses intéressantes dans ce que l'on vient d'entendre. Serge Simino, est-ce que vous avez d'abord le sentiment que tous les responsables européens attendent avec impatience ce discours d'Emmanuel Macron?
Bon, ils sont en train de s'en convaincre, c'est déjà ça. Mais on est remonté dans le temps, là, c'est une interview d'aujourd'hui. En 2019, Emmanuel Macron a fait la même campagne. Le camp du progressisme, lui, contre les nationalistes et le repli. Déjà Viktor Orban à l'époque. Donc là-dessus, peut-être qu'il va falloir trouver un autre ressort. Mais si on parle d'aujourd'hui, réellement, qu'on ne revienne pas en 2019, la campagne commence et la tête de liste de la majorité présidentielle s'exprimera jeudi, n'en déplaise à Mme Ayer, qui a une campagne qui a du mal à décoller. Elle a été mise dans une situation assez difficile.
Le vrai candidat, c'est Emmanuel Macron.
Bah, clairement, on s'en cache même pas dans le camp de la majorité. C'est pas contre Valérie Ayer, qui est une députée européenne, sortante, présidente du groupe Renew, sauf qu'on la met dans des conditions difficiles. On critique le bilan national alors que c'est une campagne européenne. Il fallait qu'elle s'impose dans un moment où le Rassemblement national caracole tellement en tête que Renaissance en fait une cible, en oubliant les autres.
Qui nationalise le scrutin, Renaissance ou ses adversaires?
J'ai l'impression que tout le monde nationalise, tous les candidats. Même Manon Aubry parle beaucoup de la France. Les écologistes parlent d'écologie, mais on ne les entend pas. Et puis Raphaël Glucksmann parle de Raphaël Glucksmann. Donc, si vous voulez, la campagne, elle va peut-être commencer à démarrer, mais sous la houlette d'Emmanuel Macron.
Valérie Lecable, je vois que vous n'êtes pas d'accord sur Raphaël Glucksmann.
Non, sur Raphaël Glucksmann, je suis pas d'accord. Raphaël Glucksmann, je suis désolée, il est député européen depuis 2019. Il a de l'expérience, il a une campagne extrêmement puissante avec des arguments très forts. Il connaît les sujets internationaux par cœur. Il est bon sur l'Ukraine, il est bon sur des tas de sujets. Il est bon aussi dans son attaque la façon de fonctionner de la majorité présidentielle en Europe, parce que d'abord c'est un petit parti qui s'appelle Renew et qui n'a pas la majorité. Là, ce qui se joue, c'est que peut-être que la gauche
attendent des réponses sur la France.
La gauche peut gagner la majorité au Parlement européen. C'est quand même un enjeu qui dépasse la France, et il est dans une vraie campagne européenne, et il redonne un petit peu d'espoir à cette gauche social-démocrate qui se sent délaissée
et la majorité Renaissance temps. D'ailleurs regarde dans le rétroviseur, oui, parce que le score de Place Publique et PS avec Raphaël Guttmann leur fait peur.
Ça leur fait peur, c'est le score qu'a fait Yannick Jadot en 2019. Donc simplement, sauf que là, c'est la gauche. C'est pas un écologiste.
C'est pas très comparable.
Donc si vous voulez, la dynamique de campagne, il a une vraie dynamique de campagne. Je veux dire, il monte et il a une vraie dynamique de campagne. Et le sujet que je voudrais
dire
rajouter...
Pourquoi aussi,
Serge Simino.
On
quand
vous
même...
a pas interrompu.
La dynamique de campagne, elle vient du fait que des macronistes, anciennement Parti Socialiste, sont en train de rentrer à la maison.
Ah bah très bien, ça s'appelle une dynamique de campagne, je suis désolée de vous le dire. Et la deuxième chose que je voudrais dire quand même, c'est qu'on ne peut pas tout ramener éternellement Emmanuel Macron. Je veux dire, on n'est pas en train de faire une campagne présidentielle, on est en train de faire une campagne pour les élections européennes. Donc c'est vrai que la campagne de la tête de liste européenne patine, c'est pas entièrement de sa faute. Mmh. Elle n'a pas eu le temps de se préparer, elle connaît très bien ses dossiers, mais après il faut savoir délivrer ce qu'on connaît, c'est un autre sujet. Et elle a du mal, et elle l'a dit ce matin sur cette antenne de France Info et de France Inter, elle a dit la campagne européenne, je suis désolée, elle a démarré, je suis en campagne depuis plusieurs semaines. Et donc elle a contré ce qu'a dit Gabriel Attal, qui dit la campagne commencera jeudi, ce n'est pas vrai. On a une candidate qui est en campagne et qui pour l'instant n'arrive pas à imprimer. Alors juste pour terminer, est-ce que Emmanuel Macron réussira dans un sursaut à tout renverser sur la table? Moi, j'en suis pas certaine cette fois-ci, parce que c'est une campagne européenne, c'est pas une campagne présidentielle.
Séverin Husson, est-ce que l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron peut faire un peu décoller cette campagne de Valérie Ayé?
Moi, je suis d'accord avec Valérie. Je pense qu'il faut pas tout ramener à Emmanuel Macron, et que Valérie Ayé, pour le moment, sa campagne décolle pas. Mais attendons, c'est encore dans 6 semaines le scrutin.
Cette semaine.
Donc attendons. Est-ce que l'entrée d'Emmanuel Macron peut faire décoller la campagne? Ça va être compliqué. Il est pas dans la même position qu'en 2019. Il était beaucoup plus populaire à l'époque. Là, il est quand même il est dans un deuxième mandat, et avec il va enchaîner les difficultés. On voit que quand il a nommé Gabriel Attal, qui était soi-disant l'armant Bardella, aujourd'hui ça fait un peu pchit, disons. Il est un peu encalminé entre les problèmes d'agriculture, de dette, d'école. Donc est-ce que le duo d'exécutifs peut sauver la campagne de Valérie Ayé? Ça va être compliqué. Je pense qu'ils vont essayer de dramatiser la campagne, en tout cas. Ils vont essayer de la dramatiser. C'est sans doute ce que va un peu dire Emmanuel Macron jeudi, en disant ce qu'il a déjà fait, hein, un peu hors de nous le chaos. C'est-à-dire, c'est un peu ce que disait Serge Simino. Il va jouer la carte, les populistes ou les extrémistes et les raisonnables.
20h, 21h, les informés, Victor Mattey.
La campagne des européennes, le scrutin, c'est dans 50 jours maintenant, le 9 juin. Il y a tout de même des airs de duel présidentiel. On parlait d'Emmanuel Macron, Émilie Zapalski. Marine Le Pen, elle, est à Mayotte, à la place de Jordan Bardella, qui est lui le candidat normalement.
Oui, et puis on l'a même entendu dire qu'elle voulait bien un débat autour de l'Europe avec Emmanuel Macron. Donc il y a cette volonté de nationaliser un petit peu cette campagne. Moi, je reviendrai sur Emmanuel Macron. Je pense que le casting de Valérie Ayé, il n'a pas été... très bon. Enfin, on voit qu'elle a beaucoup, beaucoup de mal, que ça soit en discours, en convention, enfin, en discours officiel ou bien
si
en débat.
Si on revient quelques semaines en arrière, on se souvient que personne dans la majorité ne voulait y aller.
Non, personne ne voulait y aller. Ceux qui pouvaient, voilà. Et puis, Attal était censé être le meilleur candidat pour contrer Bardella, en tout cas, par premier ministre interposé. Enfin, c'était comme ça que c'était présenté. On a vu Emmanuel Macron essayer d'imposer d'autres sujets, comme l'Ukraine, de refaire un petit peu le côté chef de guerre, sur la fin de vie aussi, d'essayer de faire diversion ou en tout cas d'embarquer la campagne un peu sur d'autres thématiques. On voit que ça ne marche pas. Moi, je pense qu'il y a deux choses, et vous l'avez dit, c'est vrai, c'est que les conditions sont plus les mêmes qu'en 2019. Emmanuel Macron ne fait plus rêver autant. Il y a une partie de l'électorat qui est tentée, en effet, par un autre choix. Et puis, l'Europe ne fait plus aussi rêver. En tout cas, les critiques vis-à-vis de l'Europe ne viennent plus seulement de l'extrême droite. Il me semble, il y a eu des choses réussies en Europe par rapport aux crises, quand même, sur le Covid ou quoi, mais il y a eu un réveil un petit peu lent. Et il y a beaucoup plus de critiques maintenant sur ça. Avant, quand vous critiquiez l'Europe, vous étiez tout de suite taxé d'extrême droite. Maintenant, c'est beaucoup plus partagé sur certains qui disent l'Europe va pas bien, il faudrait la réformer. C'est pas pour ou contre l'Europe, mais c'est pour une Europe différente. Et du coup, Emmanuel Macron, qui est un défenseur de l'Europe, a du mal à monter sur ce sujet-là, il me semble, et je suis pas sûre que son apparition et ce début de campagne qui serait le 9 juin ait autant d'impact. Moi, j'ai l'impression que cet écart, il va être très difficile à remonter vis-à-vis du Rassemblement national.
Serge Simino, entre la Sorbonne 2017 et la Sorbonne 2024, jeudi prochain, qu'est-ce qu'il y aura comme différence ?
Il y a effectivement les crises qui ont pu montrer que l'Europe pouvait travailler difficilement, mais quand même ensemble. Et puis, il y a malgré tout, pardon d'y revenir, il y a un contexte franco-français qui est là. C'est un président qui ne va pas se représenter, qui veut être l'un des personnages clés de l'Europe, ça c'est clair. Remettre la France peut-être à sa place avec l'Allemagne, même si ces derniers temps ça a été compliqué, en particulier avec le conflit ukrainien. Mais voilà, la différence, elle va être là. Après, souvenez-vous ce qu'il disait en 2017, une défense européenne, un budget européen. Bon, tout ça, ça se fait pas tout seul, bien évidemment. Il faut être au moins 27. Donc c'est ça qu'on attend. Mais je crois que le contexte actuel, quand même une tension. On disait que la campagne n'avait pas commencé. Moi, quand je dis ça, c'est la vraie campagne, c'est-à-dire programme contre programme. Il y a un contexte hyper tendu. On le voit avec l'affaire Rima Hassan, on le voit avec les attaques incessantes des uns contre les autres. Donc, c'est ça que Emmanuel Macron va devoir tenter d'éviter jeudi, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans une nouvelle Sorbonne réadaptée. Ce même combat des progressistes contre le camp du repli, il doit réinventer... plus que l'Europe, il doit réinventer la majorité et Emmanuel Macron au passage.
Valérie Le Cable, Emmanuel Macron qui perd du terrain, on le voit dans les sondages avec Valérie Ayer, face au Rassemblement National, face à Raphaël Glucksmann. Il perd des électeurs, justement, peut-être des électeurs de gauche originelle, on va dire, qui retournent chez Raphaël Glucksmann. On voit aussi des seniors des plus de 65 ans tentés par le vote Front National,
Rassemblement National. Il y a une grosse différence par rapport à 2019, c'est qu'en 2019, le Rassemblement National, le Front National à l'époque s'appelait, voulaient sortir de l'Europe et maintenant ils veulent plus. Donc ils sont devenus plus... C'est devenu possible de voter pour eux puisqu'ils ne sont plus en train de dire on va sortir de l'Europe. Et oui, les gens veulent une Europe différente. Ça, c'est vrai. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron, il symbolise la même Europe. Le Rassemblement National, il symbolise une Europe plus dure. Et Raphaël Glucksmann, il symbolise une Europe plus égalitaire, plus juste, en fait. C'est ça son slogan. Une Europe plus juste, plus redistributive, et qui tienne plus compte des minorités, et qui aille plus fort sur l'Ukraine. On va en parler tout à l'heure, peut-être. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant. C'est ce jeu-là dans lequel Emmanuel Macron va être très mal à l'aise, parce que il va jouer, effectivement, la dramatisation. Il va jouer même le 6 juin, quand même. Les 80 ans du débarquement avec la grande Smala, etc. Sauf que ça sera
trois jours avant le scrutin.
C'est ce qu'il a fait à la dernière élection présidentielle, mais ça a marché parce qu'il voulait être président de la République. Là, la question, c'est est-ce que ça marche pour des élections européennes ? J'en suis pas sûre, parce que c'est pas le même sujet. C'est pas parce que l'Europe aura une majorité de droite ou de gauche, d'ailleurs, parce que l'Europe, c'est comme ça. Hein. Ce que représente Emmanuel Macron, Renew, c'est marginal en Europe. C'est ça qu'il faut. Et donc, l'Europe ne joue pas son destin sur le débarquement, les 80 ans du débarquement. Donc, est-ce que la ficelle, parce que l'Ukraine, la dramatisation de l'Ukraine l'a beaucoup aidé à devenir président de la République, est-ce que la ficelle va remarcher une autre fois ? Parce que une fois de plus, ce n'est pas lui qui mène la liste, en plus. C'est
on
ça.
On parlait de la dynamique du Rassemblement National, de celle de Raphaël Glucksmann. On peut imaginer, si c'est vraiment un parti présidentiel troisième au soir du 9 juin, serait un séisme politique pour la majorité ?
Ce serait un séisme politique. Ça c'est certain que ce serait un séisme. C'est possible. Là, les sondages les donnent quasiment au coude à coude. Voilà, encore une fois, il reste, vous l'avez dit, 7 semaines de scrutin, 7 semaines avant le scrutin, 7 semaines de campagne. Faut prendre les sondages avec beaucoup de pincettes quand même, hein, à ce délai-là du vote. Donc oui, c'est possible, mais attendons de voir.
On a vu qu'en 2019, effectivement, les sondages avaient donné une avance large au Rassemblement
absolument,
national et que finalement, ça s'était joué dans un mouchoir de poche. Nathalie Loiseau, qu'on donnait largement perdante, c'était finalement incliné d'un point.
Pareil,
non, moins d'écart, bien sûr.
Sur la gauche, c'est intéressant quand même, parce qu'on voit, mine de rien, on ne sait pas évidemment ce que ça va donner au final, mais il y a une espèce d'espoir qui commence à prendre forme, à se concrétiser, alors que depuis le début, là, avec cette gauche quand même très extrémiste, tiré par Jean-Luc Mélenchon, c'était pas du tout ça. On sent cette appétence qu'ont certains, des déçus en effet de Macron qui était plutôt côté gauche, qui sont complètement perdus depuis un moment et qui retrouvent peut-être là une gauche un peu plus modérée, un petit peu plus qui pense, qui réfléchit, qui analyse. Moi j'ai vu aussi un sondage qui est intéressant dans Libération, qui donne François Ruffin aussi, qui commence un petit peu... En fait, c'est un pré-paysage présidentiel 2027 qui est en train de se passer. Et si en effet, la gauche passait devant le camp présidentiel, là, on serait dans une configuration qui changerait complètement. Et d'ailleurs, ça serait un peu la reconfiguration un peu bizarre d'une extrême droite gauche, enfin d'une opposition qui soit un petit peu plus claire, alors que Macron a brouillé beaucoup de pistes là-dessus.
Faut quand même être prudent.
Mais bien
avant
sûr,
de tirer
mais
des
en tout cas, on voit l'appétence en tout cas.
Serge Siminaud, le PS et Place Publique devant la France Insoumise, les Verts, le Parti Communiste, etc. On va dire en leader de la gauche sociale démocrate. Pour eux, ce serait déjà une victoire.
Bah, c'est un peu lié parce que c'est vrai que on le disait, il y a une partie des socialistes qui sont partis de chez Emmanuel Macron, mais il y a aussi des écologistes apparemment qui sont, on ne sait pas où ils sont, mais ils sont pas en tout cas sur la liste de Madame Toussaint. Ils sont peut-être aussi chez Raphaël Glucksmann. Alors c'est vrai que tout à l'heure je schématisais en disant qu'il parlait de lui, mais il y a une dynamique qui vient d'une espèce de réceptacle d'un certain nombre de mécontentements, mais aussi de gens qui veulent à nouveau croire au clivage, ce qui est le contraire de ce que Emmanuel Macron a développé pour devenir président de la République. Donc il y a une espèce peut-être de retour à un esprit gauche-droite. Alors bon, il y a certains socialistes qui sont inquiets parce que ça fait revenir François Hollande. Donc vous voyez, tout le monde n'y trouve pas son compte dans cette affaire.
Non, juste pour terminer sur ce sujet-là, je pense que l'après-présidentielle, ce n'est pas le moment, il y a des étapes, etc. Mais c'est vrai que si jamais cette gauche-là réussit à faire un score, même sans être deuxième, hein, mais un score correct, il y aura certainement des tentatives de recomposition de la gauche dans la perspective de 2027 à ce moment-là.
20h, 21h, les informés, Victor Mattey.
Au lendemain du vote à la Chambre des représentants aux États-Unis, encore beaucoup de questions. À quoi va servir concrètement l'aide qui sera débloquée? Il faut encore l'accord définitif du Sénat pour l'Ukraine et Israël. 61 milliards de dollars rien que pour Kiev. Mais pourquoi faire? Écoutez la réponse de l'historien spécialiste des questions militaires Cédric Masse sur France Info.
La supériorité numérique russe reste la même. Cette aide ne remplacera pas les pertes subies par l'armée ukrainienne qu'elle a de plus en plus de mal à combler. Ça va être surtout des stocks de munitions d'artillerie. Ce qui manquait aux Ukrainiens pour faire face aux attaques russes, c'était de l'artillerie, des obus d'artillerie. Certaines batteries, certains canons ne pouvaient tirer que 5 ou 6 coups chaque jour. Or, les Russes, compte tenu de leurs assauts, c'était largement insuffisant pour soutenir les forces sur le front. Ça va beaucoup changer dans les têtes. Or, la guerre est aussi une affaire de morale. Et surtout, ça va permettre à l'état-major ukrainien de pouvoir peut-être prendre plus de risques sur le front, puisque jusque-là, à chaque fois qu'il était en situation difficile, il préférait lâcher du terrain. Or, le terrain, la terre ukrainienne est chère pour les Ukrainiens parce que c'est l'objectif de Poutine.
Voilà, changement matériel, mental et stratégique à en croire Cédric Masse. Séverin Husson, vous y consacrez la une de la Croix demain à cette situation en Ukraine. Sur le terrain, concrètement, cette aide, elle va quoi? Déjà permettre aux Ukrainiens de tenir pour l'instant?
Elle va leur donner un bon coup de morale. C'est vrai que depuis plusieurs mois, enfin la dernière aide américaine remontait, a été votée il y a un an et demi. Et les Américains sont les seuls à avoir un complexe militaro-industriel capable d'aider vraiment les Ukrainiens. Donc c'est sûr qu'ils ont perdu depuis ces dernières semaines du terrain, et faute de munitions, avec un moral en berne. Donc voilà, la première chose, c'est que en Ukraine, cette nouvelle, elle est évidemment saluée et ça redonne du moral aux troupes. Maintenant, est-ce que c'est de nature à changer radicalement la situation militaire sur place? C'est pas sûr. Si les Ukrainiens voulaient vraiment reprendre du terrain et porter un coup dur aux Russes, il faudrait qu'ils soient en capacité d'attaquer le territoire russe et de mettre à mal toute la logistique militaire d'approvisionnement
des troupes russes. Ça veut dire quoi? Qu'il faut plus d'aide encore, plus d'aide financière, matérielle?
Ça, aujourd'hui, les Occidentaux ne le veulent pas. Aujourd'hui, les armements occidentaux ne servent pas à attaquer le territoire russe. Les attaques que font les Ukrainiens sur le territoire russe sont faites à partir de drones ou de drones ukrainiens ou de matériel ukrainien. L'aide américaine ne va pas permettre de faire ça. Donc je pense pas que ce soit de nature à complètement renverser la situation. Ça va la rééquilibrer probablement.
Émilie Zapalski, il y a l'aspect stratégique aussi, on l'entendait, l'état-major ukrainien va pouvoir peut-être aussi repenser ses plans.
Oui, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir beaucoup de choses positives dans cette aide. Évidemment que c'est pour le moral et c'est pour tenir, mais on voit pas comment ça peut les aider à attaquer davantage. Moi, je pense que c'est intéressant.
Ça veut dire quoi, finalement, que ça aide à ne pas reculer, mais on ne sait pas si ça aide à avancer.
Bah oui, pour le moment, c'est principalement ça, puisqu'on a vu que les attaques, elles étaient pas suffisantes. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les États-Unis encore votent cette aide-là. On est en période d'élection, hein, en novembre à venir. Avec si c'est Trump et même si c'est Biden, ça sera encore compliqué de continuer à aider l'Ukraine. Donc c'est un signal quand même très positif. Ça laisse à l'Europe, on a vu, et d'ailleurs Emmanuel Macron essaie de prendre les devants en parlant d'économie de guerre pour la France, essaie de voir comment l'Europe, si jamais à un moment les États-Unis commencent à lâcher sur le soutien, pourrait prendre le relais. Et ça sera pas chose simple, hein, parce qu'on est vraiment très très en retard là-dessus, sur les commandes même qu'on a promises à l'Ukraine. Donc ça laisse un peu de temps, j'allais dire, ça peut, sur le moral, c'est à la fois une aide qui arrive là, qui est en relais et peut-être un peu plus de temps. Mais la question, c'est à long terme, comment et est-ce qu'on va pouvoir aider comme ça indéfiniment et pour quel but, hein, parce que ça, on n'en parle jamais, mais c'est quoi l'objectif vraiment? La Russie, on a bien compris quel était l'objectif. L'Ukraine, tenir et gagner, ça serait quoi pour l'instant? On est dans un grand flou. C'est principalement tenir bon. Tenir sur les lignes, c'est pas beaucoup plus.
Serge Simino, vous êtes d'accord avec ça?
Bah, c'est la boule de cristal, dans ces cas-là, c'est jamais très très bon. Et on en est tous à penser, si on est du côté ukrainien, qu'il était temps. Mais je lisais tout à l'heure réactions à vif, une de la Russie qui disait, je vais vous la lire pour être précis, la Russie dit, elle a affirmé que cette aide tuerait encore plus d'Ukrainiens à cause du régime de Kiev. Et de l'autre côté, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, qui dit « J'espère que cette aide n'arrive pas trop tard ». Donc c'est un peu ces questions-là qu'on se pose. Après, bien évidemment, que je sais pas comment on dit en ukrainien, mais que M. Zelensky a dû dire « Enfin !» Surtout que c'était pas gagné, puisqu'il y avait quand même un enjeu interne aux États-Unis, qui était le poids de Donald Trump sur le président de la Chambre des représentants, M. Johnson, je crois, qui a apparemment changé d'avis en disant « Je préfère qu'on envoie des armes aux Ukrainiens que d'envoyer des Américains se faire tuer là-bas ». Donc on est sur cet espoir que ce conflit puisse s'arrêter. Mais le problème, c'est qu'il s'arrête comment? Est-ce que négocier une paix, c'est dire que les Russes ont gagné? Ou est-ce qu'il faut aller à la défaite militaire des Russes? C'est ce que cette aide pourrait apporter, mais on en est, je pense, bien bien loin.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Les informés de retour avec Émilie Zapalski, fondatrice de l'agence de communication Émilie Conseil, Valérie Lecable, éditorialiste politique au site lejournal.info, Séverin Husson, directeur adjoint de la rédaction de La Croix, et Serge Simino, journaliste au service politique de France Télévisions. Nous évoquions l'aide américaine à l'Ukraine, c'est 61 milliards de dollars débloqués hier soir par la Chambre des représentants, en attendant prochainement le vote du Sénat. L'Ukraine ne sera pas un deuxième Afghanistan, dit aujourd'hui Volodymyr Zelensky. Valérie Lecable, il y avait vraiment cette crainte de se voir abandonné en quelque sorte par les États-Unis.
Oui, mais ce qui s'est joué, c'est que les Américains étaient convaincus que s'ils ne les aidaient pas, l'Ukraine pouvait perdre la guerre d'ici la fin de l'année 2024.
C'est ce qu'avait dit le chef de la CIA.
C'était la grande crainte, c'était la grande angoisse et la grande... Parce que d'un côté, que l'Ukraine ne gagne pas, c'est une chose, mais que l'Ukraine perde, ça aurait des conséquences considérables pour l'Europe. Et Mike Johnson, que vous avez cité, quand il dit « je préfère envoyer des munitions que d'envoyer les boys », dans la parole américaine, ça veut dire quelque chose. Je veux dire, quand ils ont envoyé les gens, quand ils ont envoyé leurs gamins au Vietnam, en Afghanistan, etc. Ça. Donc ça veut dire que le monde occidental a une espèce de conscience qu'il faut continuer à aider l'Ukraine pour empêcher Vladimir Poutine de gagner. C'est ça l'objectif. Le premier objectif, c'est celui-là. Et la deuxième chose, je vais essayer d'être rapide, je pense qu'il y a toujours sous-jacent cette espèce de stratégie de se dire « la Russie va finir par s'enliser ». C'est-à-dire « la Russie va finir par s'affaiblir et se déliter de l'intérieur ». Ça, c'est une stratégie à moyen et à long terme qu'on entend dans le camp ukrainien et qui est ça peut être un wishful thinking, hein, peut-être que ça n'arrivera pas. Mais depuis qu'on a vu l'URSS éclater rapidement, finalement, il y a cette idée, est-ce que la Russie va est-ce que son économie va tenir? Est-ce que ses hommes vont tenir? Est-ce que l'opinion publique va tenir? Est-ce que, etc. Donc, je pense que c'est ça. Ne pas perdre à court terme et essayer de les saper sur le long terme. On parle aussi, excusez-moi, et on peut prendre leurs avoirs aussi, hein, dans ce qui a été voté hier. C'est très important. Il y a 200 milliards d'euros qui sont bloqués en Europe et on peut les récupérer depuis hier soir.
Les sanctions économiques. Séverin Husson, est-ce que ces aides finalement débloquées, c'est un soulagement, on l'a dit, pour Kiev, c'est un soulagement aussi pour les Européens?
C'est un soulagement pour les Européens. Ça veut dire que les États-Unis sont décidés, en tout cas pour le moment, à ne pas abandonner les Européens et alors à les accompagner dans leur sécurité. Donc c'est un soulagement pour les Européens. Je rebondis sur ce que dit Valérie. C'est sûr qu'il y a toujours en toile de fond cette idée que la Russie peut s'effondrer. Sans doute en Ukraine, c'est une idée qui a aussi existé chez nous. Et c'est vrai que plus de 2 ans après le début de la guerre, on continue à être étonné de la solidité de l'économie russe. On a pensé qu'elle s'effondrerait avec les sanctions, c'est pas le cas. Donc, à quoi vont aboutir ces nouvelles aides s'il s'agit de figer le front et de continuer à envoyer, à armer les armées et à faire des morts de part et d'autre, c'est sûr que ce sera pas productif. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, en parallèle de cette fourniture d'armes, préparer la paix. Ça veut dire commencer à dessiner les contours, comment on peut sortir de ce conflit, jusqu'où il faut aller. L'envoi simplement de munitions et d'armes, ça peut pas être la seule réponse des Occidentaux.
Et c'est le sens de votre éditorial d'ailleurs demain dans le journal La Croix. Serge Timino, comment on la prépare cette paix?
C'est ça la question, puisque je disais tout à l'heure, est-ce que faire la paix avec la Russie, c'est la victoire de Poutine? Sur quel territoire on discute? Est-ce que ce qui s'est passé en 2014, on en reparle? Mais d'un autre côté, on peut pas être va-t-en-guerre autour de cette table à dire il faut que les Ukrainiens continuent, aidés par l'Europe et les États-Unis pour aller battre Poutine. On n'a pas ces clés-là, mais il est clair que moi, j'ai lu quelques généraux à la retraite nous dire que c'est peut-être trop tard, mais qu'il fallait cette aide américaine pour donner une chance à l'Ukraine de résister, non pas de gagner du terrain, mais de ne plus en perdre. Donc moi, j'entends ce que dit mon confrère, mais quelle paix, quel horizon et avec qui?
Je voudrais qu'on dise, oui, Elisabeth.
Non, je pense que cette idée que les Russes vont pas tenir, enfin que le pouvoir russe, hein, que Poutine, moi j'ai l'impression qu'on est en plein délire, parce que depuis le début, même si eux ils ont considéré que c'était une opération spéciale, ils sont en économie de guerre. Hein. Nous on est bien loin derrière de cette machine fonctionner. Sur la population, je pense qu'ils s'en fichent un petit peu, hein, quand même. Poutine, ce qu'il impose à sa population et ceux qui sont pas d'accord, on sait quel sort il leur réserve. Donc je pense que là-dessus, on est un petit peu dans une méthode quoi peut-être pour mais je pense qu'en effet un jour ou l'autre il va falloir parler de paix, il va falloir négocier, ça va sûrement être très compliqué pour Zelensky parce que voilà, il va falloir qu'il soit face à lui, il a organisé la résistance depuis longtemps et
en
ça va
cas,
être
les objectifs de Zelensky, on les connaît, c'est de récupérer les territoires qui ont été pris
oui,
par
mais jusqu'où jusqu'à la Crimée, ouais, c'est ça.
Mais Poutine, il veut absolument pas entendre parler de ça, je veux dire Poutine, il veut garder les territoires et il en veut même plus. Donc la paix, elle semble... Il n'y a pas de paix parce que le front ne rompt pas, en fait. Et pour qu'il y ait une paix, il aurait fallu que l'Ukraine perde, en fait. Et l'objectif, c'est d'empêcher l'Ukraine de perdre et d'avoir une paix équitable. Mais Poutine ne veut pas d'une paix équitable.
Il faut absolument que l'Ukraine ne perde.
On a lâché pour la Crimée. Hein. On a fait cette erreur originelle de faire. Là, on résiste sur quelque chose qu'on a laissé faire.
Avant de fermer cette page internationale, je voudrais qu'on dise un tout petit mot de l'autre aide débloquée hier pour Israël par les États-Unis, l'État hébreu qui a besoin d'argent pour continuer à se battre à Gaza notamment, mais aussi faire front au Hezbollah au Liban et contrer en quelque sorte l'Iran. L'enjeu est aussi, on va dire quoi, c'est vraiment une question politique et diplomatique, montrer que les Américains sont toujours aux côtés d'Israël, parce que certains en ont douté à un moment.
Oui, oui, c'est ça. Alors, il y a eu, il me semble, une dizaine de milliards qui ont été promis à Israël, 13, pour les aider à renforcer leur dôme de fer. Donc, c'est essentiellement, en tout cas sur le papier, c'est ce qui nous est annoncé aujourd'hui, un investissement défensif, disons. Il ne s'agit évidemment pas d'aider Israël à bombarder Gaza, même si en réalité, on le sait, les États-Unis fournissent des armes aujourd'hui à Israël qui les aident dans leur guerre à Gaza. Hein.
Avec aussi des fonds débloqués, Serge Simino, pour aider Gaza sur le front humanitaire.
Oui, en tout cas, l'aide, pour répondre à la première question, l'aide pour Israël, c'est le retour du soutien indéfectible des États-Unis, car Israël avait laissé entendre qu'ils n'étaient pas si indéfectibles que ça. Donc c'est un retour à la case départ pour les États-Unis. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le volet humanitaire qui est parfois un peu oublié lorsque certains défendent Israël de cette manière-là. Mais c'est vrai, on l'a dit, c'est un moyen de les aider à se défendre. Mais pour aider à les défendre, on leur permet aussi d'attaquer.
Valérie Lecâble.
Il y a 9 milliards d'euros qui ont été, de dollars, pardon, de dollars, qui ont été débloqués pour l'aide humanitaire d'une façon générale. Donc, Joe Biden, il est obligé jusqu'au mois de novembre de tenir avec Israël. C'est difficile pour lui, en fait, parce que son électorat ne comprendrait pas. Et donc, il joue sa réélection et donc il soutient. Mais il accompagne avec l'aide humanitaire. Et la vraie question, elle se posera peut-être après le mois de novembre. Alors, espérons que tout ça sera réglé d'ici là. Mais effectivement, il est dans une posture où il est un peu contraint. Il ne peut pas les lâcher comme ça.
L'agenda électoral a favorisé ces trois aides.
Même si sur le fond, on comprend bien qu'il n'est pas d'accord avec ce que fait Netanyahou et qu'il aimerait bien que les choses se passent autrement. Surtout que Netanyahou est reparti en guerre depuis qu'il a reçu ses 13 milliards. Mais il est un peu contraint en raison de ses impératifs électoraux.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Avec un retour en France et un anniversaire, les femmes obtenaient le droit de vote pour la première fois en France il y a tout juste 80 ans. Le droit aussi de se présenter à des élections. Mais quelle place aujourd'hui pour les femmes en politique? Quelles avancées en près d'un siècle? L'ancienne ministre écologiste Cécile Duflot était ce soir sur France Info. Elle se souvient encore des sifflets qui avaient accompagné son arrivée à l'Assemblée nationale en 2012, alors qu'elle était arrivée, souvenez-vous, en robe.
Sur le moment, je n'ai pas du tout mesuré l'ampleur de cette histoire. Pour moi, qui était une chef de parti, donc qui avait été frottée à la difficulté depuis des années, j'étais pas très impressionnée. C'est le président de l'Assemblée qui a eu peur que je perde mes moyens. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ça m'a presque pas choquée. C'est-à-dire que j'étais tellement habituée que je savais qu'il fallait en fait résister à ça, que ça faisait partie du rite initiatique. Et ça, c'est insupportable parce que je pense qu'y compris les femmes avaient accepté l'idée qu'il fallait serrer les dents face à des comportements qui sont inacceptables. Ce que je constate maintenant, c'est que les femmes peuvent aller dans n'importe quelle tenue à l'Assemblée et j'en suis très heureuse. Mais le combat est jamais gagné et il faut toujours le faire avancer.
Émilie Zapalski, on est à la frontière entre la politique et la communication. Qu'est-ce que vous inspire ces propos de Cécile Duflot?
Oui, c'est sa dernière phrase, le combat n'est jamais gagné. En fait, j'ai l'impression que quelque part, nos générations sont un peu endormies avec les nouveaux droits qu'on a eus. Bon, évidemment, je parle pas d'il y a 80 ans, mais l'IVG, la contraception, tout ça, je trouve que c'est comme si on s'était un peu endormi en disant, bah ça y est, on est arrivé. Et il y a des nouvelles générations qui sont hyper féministes, garçons comme filles d'ailleurs, de plus en plus de garçons, et qui nous réveille un peu là-dessus en nous disant c'est pas gagné du tout. Et c'est vrai que finalement c'est pas gagné du tout, il y a encore énormément de choses, parce que vous le dites, en politique, bon, je passe tous les hashtags #MeToo, enfin toute cette
vague et ces mouvements,
chasse qu'il y a et qui me paraît un peu normale, parce qu'on voit que partout dans le cinéma, enfin voilà, il y a encore beaucoup à faire dans les maisons, hein, chez les couples, il y a encore beaucoup de choses. On voit que l'INSEE dit 70% des tâches ménagères c'est toujours les femmes, donc il y a les l'écart de salaire. Enfin, il y a énormément d'endroits où on devrait encore gagner des combats, donc c'est jamais terminé. Et en plus, les pros du féminisme disent, attention, à chaque crise, on risque des reculs. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans le Covid, où les femmes sont revenues au devant de la scène pour les enfants, c'est elles qui étaient en première ligne pour ça. Donc méfiance, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il y a une, voilà, il y a une nouvelle étape de d'autres combats à gagner, et tant mieux, parce que ça paraît tellement, enfin, 80 ans, c'est super, hein, que, mais ça me paraît tellement, c'est tellement lamentable de se dire que c'est qu'en 44 et qu'on l'a fait en 45, c'est pitoyable, quoi. Et compte en banque, enfin voilà, moi ça me paraît tellement démentiel, c'est si proche, hein, finalement.
Serge Thémineau, pour revenir à cette scène avec Cécile Duflot en 2012, on s'en souvient encore, mais à la fois ça paraît loin, est-ce qu'on imaginerait ces mêmes sifflets aujourd'hui en 2024?
Oh, c'est très actuel, hein. On parle du droit de vote, mais ça n'a jamais fait disparaître le sexisme. Et donc ces propos, même si elle semble avoir pris du recul, pour en avoir parlé à l'époque avec elle, elle en reste très marquée. Et je pense que demain, une autre députée pourrait vivre ce genre de scène. Alors, sans doute, publiquement, ce serait encore, ça ferait un tollé plus général, mais c'est pas si vieux que ça. Et c'était dans une indifférence complète. Donc, je pense que c'est pas réglé. Pour en revenir au droit de vote, on parle des 80 ans. La première à avoir demandé cette égalité, c'était Olympe de Gouges, en 1791. Donc, il faut du temps. Et comme le disait Émilie...
Disant que les femmes avaient le droit à l'échafaud, donc elles avaient le droit aussi de voter.
Mais que ces droits-là, quand il s'agit des droits des femmes, il faut toujours se battre pour les conserver. Ça n'a pas bougé. Et donc, le droit de vote, pour l'instant, est inscrit. Il y a aussi donc le droit de se faire élire. Et que la seule frontière qui n'a pas été franchie, c'est la présidence de la République. Quel que soit d'ailleurs qui se présente, mais c'est le dernier mandat qui n'a pas encore été atteint par le vote par une femme. Mais pour le reste, la scène dont parlait Madame Duflot, je pense qu'elle est encore possible. En tout cas, peut-être par hypocrisie, ça ne se ferait pas, mais le fond est toujours de sexisme est toujours présent en politique comme ailleurs.
On a parlé de l'Élysée, on a eu deux femmes à Matignon, Edith Cresson, il y a 30 ans.
Deux femmes à Matignon.
Seulement deux femmes et Elisabeth Borne ces dernières années, ces derniers mois. Valérie Lecâble, la victoire, ce sera quoi? Le jour où on ne remarquera plus si c'est un homme ou une femme finalement qui est Premier ministre?
Écoutez, je suis partagée parce que c'est vrai qu'on découvre un peu que ça fait seulement 80 ans que les femmes ont le droit de vote, et c'est vrai que ça fait même pas 60 ans, je crois, qu'elles ont un compte en banque, qu'elles sont indépendantes, qu'elles sont autonomes et qu'elles peuvent vivre normalement. Donc tout ça, parce que sur l'échelle de l'histoire, c'est très court en même temps. Et c'est allé très très vite en fait. Et en même temps, je pense que tout est plus dur pour les femmes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes travaillent généralement, mais ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'être en haut. C'est-à-dire que il y a une sorte d'égalité qui s'est installée quand même dans la répartition du travail des couples. Par exemple, je trouve que les hommes s'occupent beaucoup de leurs enfants maintenant. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et il reste quand même cette idée que la femme, c'est pas forcément un leader. C'est ça, pour moi, le plus frappant, c'est ça. Et effectivement, il y a eu que deux femmes premières ministres et les pauvres, elles ont eu du mal toutes les deux. Et je suis pas sûre que le fait d'être femme les ait aidées, et l'une et l'autre. Donc, président de la République, on verra. Pour l'instant, ça ne s'est jamais présenté. Moi, je pense que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est d'être vraiment à l'aise. Et que moi, je serais contente le jour où 8 mars n'existera plus, en fait. Parce qu'on n'aura plus besoin de célébrer une femme. Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on célébrait plus une femme qu'un homme? Il faudrait que tout le monde soit sur le même pied. Mais moi, je crois beaucoup quand même à la... Le mot combat, je comprends pour les femmes d'avant qui ont lutté pour l'IVG. Je suis ravie que l'IVG soit dans la Constitution parce que ça protège. Mais il faut pas non plus... c'est pas une guerre, quoi. Les hommes et les femmes, ils sont faits pour vivre ensemble.
Pour travailler ensemble.
Pour, voilà. Et simplement, il faut...
Le mot combat qui vous gêne, ouais, du coup, dans le...
Bah, je n'aime pas l'opposition. Si vous voulez, autant MeToo, je comprends que ça a été, mais j'aime pas que ça devienne.
C'est un combat pour l'égalité des droits.
Sandrine Rousseau, j'ai un peu du mal parfois, sincèrement. Ouais. Vous voyez, quand on peut pas non plus opposer les genres. On n'est pas là pour opposer les genres. Voilà.
C'est pour l'égalité des droits.
On est là pour les respecter. On est là pour les respecter et pas pour les opposer.
Non, Valérie a raison, et en même temps, c'est en se battant qu'on obtient des choses. Donc voilà, le combat, il a été nécessaire et il est sans doute encore sur bien des aspects. l'aspect salarial, l'aspect de la répartition des,
même
des,
la langue,
des tâches ménagères, etc. Il est
la langue, on a quand même un président qui a rappelé, bon, c'était contre l'écriture inclusive qui est quand même assez complexe, mais un président, Emmanuel Macron, qui a dit, bah si, le masculin fait le neutre. Et en fait, ça, les nouvelles générations, elles comprennent pas.
Ouais,
on dit toujours les hommes.
Vraiment, en fait,
et vous avez oui, mais je pense que c'est signifiant quand même le langage. Et vous avez cité Olympe de Gouges qui avait fait les droits de la femme et de la citoyenne, mais c'est parti aux oubliettes alors que les femmes étaient beaucoup investies dans la Révolution, que les hommes ont reconnu leur rôle et que tout de suite après, ils leur ont dit, retournez dans les cuisines, mes chères femmes, c'est le meilleur endroit où vous pourriez
être. En fait,
moi
j'ai appris que le Sénat avait bloqué, c'est très intéressant, parce que le Sénat avait bloqué au début le droit des femmes à voter parce qu'il pensait que les femmes étaient trop proches des curés et que dans leur combat laïcard à l'époque, elles allaient reproduire ce que leur curé
allait. Oui, mais bon, après, c'est effrayant.
Vous imaginez d'où on vient, c'est incroyable. Et comment c'est allé vite, quand même.
Ce qui s'est révélé en partie, c'est-à-dire que au départ, il y a 80 ans, dans les premières années, les femmes s'abstenaient plus, c'est-à-dire qu'il y avait...
Elles n'osaient pas.
Et elles ont pendant très longtemps eu un vote plus conservateur, que les hommes.
Je crois que c'est encore vrai.
En revanche, c'est plus vrai du tout.
20h, 21h, les informés, Victor Mattet.
C'était donc le 21 avril 1944, il y a 80 ans, les femmes obtenaient le droit de vote pour la première fois en France et le droit, on le disait, de se présenter à des élections. Parlons peut-être de la parité en politique. 1% de femmes à l'Assemblée, c'est vraiment en 1958, environ 33% aujourd'hui, on a quand même fait du chemin.
37%, je crois, aujourd'hui. Ça a un peu baissé par rapport
37% exactement,
ouais,
pardon.
Par rapport à 2017, où on 2017, était 37, 39. Je crois qu'au début des années 2000, c'était en gros 15% de députés à l'Assemblée, députés EES à l'Assemblée. Donc voilà, 37% aujourd'hui, ça reste évidemment largement minoritaire. C'est mieux que ce qui est que
la parité au gouvernement, même si dans ce gouvernement-là, il n'y a pas de femme à la tête des ministres régaliens.
Ouais, la parité, elle est respectée, mais elle est un peu factice, c'est sûr. Je rebondis juste sur ce qu'on disait tout à l'heure. On a publié, nous, dans le journal, un entretien avec la sociologue Janine Mossulavo, qui nous explique que à partir des années 70 seulement, le taux de participation des femmes a été équivalent à celui des hommes. Et depuis 86, c'est pour la première fois en 86, et depuis ça se continue, les femmes votent plus à gauche que les hommes, plus socialistes, plus écolos, et d'une manière générale plus à gauche. Avec un rempart plutôt chez les femmes, c'est qu'il y a un vote à l'extrême droite qui est inférieur à celui des hommes. Ce rempart semble un peu tombé. Il était extrêmement fort du temps de Jean-Marie Le Pen. Il est moins fort aujourd'hui avec Marine Le Pen. Visiblement, Marine Le Pen arrive à conquérir un électorat féminin autant qu'elle a conquis un électorat masculin.
Valérie, pardon, Émilie Zapalski.
Oui, je pense que on est sur la parité parce qu'on a dû en venir à des quotas, parce que sinon ça ne se serait pas passé. Moi, je suis d'accord que c'est pas un combat contre les hommes, mais on a l'impression parfois que les hommes ont peur si les femmes prennent trop d'importance. C'est là où c'est très étrange. Et c'est vrai qu'on a fait croire aux femmes beaucoup de choses que certaines ont fini par croire parce que c'est notre culture, notre société qui nous a imposé tout ça. Et c'est comme s'il fallait déconstruire tout ça et leur laisser la possibilité, en effet, de s'émanciper, de s'épanouir en tant que leader, mais à leur façon. C'est tout ça qu'il faut reconstruire, quoi, parce que c'est pas encore le cas. Sur les 37% aussi à l'Assemblée, c'est parce que aussi on est quand même si j'aime pas ce terme, mais dans une société qui reste très patriarcale, hein, même s'il y a de plus en plus de garçons qui s'occupent des petits-enfants, mais quand même on reste sur des femmes qui vont dire bah non, je vais pas y aller le soir, ou je vais pas travailler le soir parce que moi je vais m'occuper des enfants. Enfin, c'est quand même encore, on en est encore là-dessus. J'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut maintenant, quel serait le cap important? Je me dis, la contraception, par exemple, c'est une affaire souvent de femmes. On met tout sur le dos des femmes. Les hormones et tout ça, c'est quand même pas des choses faciles à avoir. On se prend beaucoup de médicaments qui font beaucoup de mal aussi. C'est une liberté, mais c'est aussi... Est-ce qu'on pourrait pas partager ça et rendre les hommes un petit peu plus responsables?
Alors, c'est un autre débat. Cela dit, il y a des chiffres importants aussi aujourd'hui,
oui,
des reportages qui montrent qu'il y a des hommes qui pratiquent la vasectomie.
C'est de voir... Oui,
c'est
il y
un
en
autre
a de
débat.
Plus en plus, mais
c'est définitif. Ça, ouais. C'est quand même un peu rude.
Mais en fait, moi, je me dis, qu'est-ce qui serait des signaux comme ça, d'étapes supplémentaires où on se dirait, bah oui, ça continue à avancer et il faut que ça avance et que les femmes se sentent plus conditionnées par une image qu'on leur a donnée.
Valérie Lecâble et Serge Simino.
Moi, je pense quand même Bon, j'étais directrice générale d'une boîte et j'avais deux adjointes femmes, donc on était trois femmes. Je suis pas sûre que les femmes fonctionnent exactement comme les hommes, au fond d'elles-mêmes. Elles ont pas forcément les mêmes envies, elles ont pas forcément la même façon de faire. Ouais. Non, mais c'est,
Moi, je crois qu'on en a beaucoup fait croire. Alors, sexuellement, elles ont pas les mêmes envies. Non, mais c'est pas qu'on a fait croire.
Non, mais tant mieux. Bah, attends. Non, mais moi, je trouve ça bien.
Hein, franchement.
Non, mais moi, je trouve ça bien. Par exemple, un homme n'aura jamais d'enfant. Donc, c'est quand même une supériorité féminine absolument considérable. C'est peut-être la plus grande dans.
Les hommes ont des enfants,
corps. Mais les hommes ne portent pas dans leur corps.
Les hommes font des enfants sans les porter, c'est aussi
les hommes ne portent pas d'enfants. Par exemple, vous n'allez pas changer ça. Donc c'est vrai qu'il y a un attachement très fort. Enfin, c'est des trucs ce que je suis en train de dire. Mais pour revenir à notre sujet de la parité et de l'Assemblée nationale, ce que j'ai entendu, en revanche, il faut qu'on sorte de l'idée que les femmes. Les députées femmes, elles s'occupent de la petite enfance et des histoires de femmes, et que les hommes s'occupent de la défense, de la finance et des choses sérieuses.
Serge Thémineau, pour terminer, Valérie, désolé, on n'a plus le temps.
Dans des places à Valérie, on entend bien qu'il y a encore des combats à mener pour l'égalité.
Voilà.
Pourquoi ?
C'est mon combat.
Ah, ce que je viens de dire. Oui,
c'était le mot combat tout à l'heure.
J'ai utilisé le mot combat, c'est pour ça, pour le reste, on est d'accord.
Le mot combat qui faisait débat, effectivement. Des batailles, des combats, vous les appellerez comme vous voulez, effectivement. Il en reste à mener. On parle de combat, de bataille, on parle de l'Ukraine demain à la une de la Croix, Sébastien Husson.
On a titré sur le retour de l'Amérique en Ukraine, oui.
Voilà, avec ces aides dont on a beaucoup parlé ce soir. Merci à tous les quatre, merci infiniment d'être venus ce soir sur le plateau des informés qui reviennent demain matin. Très bonne soirée à tous sur France Info.